5 minutes pour comprendre.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission 5 minutes pour comprendre, votre rendez-vous pour tout savoir en seulement quelques minutes sur la maladie d'Alzheimer et son univers. Aujourd'hui, 5 minutes pour comprendre le droit des patients. On en parle plus en détail tout de suite avec Nadia Alix, responsable délégue au sein de l'association France Alzheimer. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Alors quand on est malade ou que l'on vit avec une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, eh bien on a envie que cette personne ait des droits et que ceux-ci soient respectés. Que prévoit le Code de la santé publique ?
Alors le Code de la santé publique a prévu dans son article 1111-6 que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Alors, quel va être le rôle de cette personne de confiance ? Cette personne va être consultée dans tous les cas où vous-même, vous ne seriez plus en mesure d'exprimer votre volonté. Alors, c'est très important dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, car on le sait, à partir d'un certain moment, la personne n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté. Donc, la personne de confiance, à ce moment-là, va prendre le relais et va exprimer la volonté du malade. Quelle aurait été la volonté du malade si cette personne avait pu s'exprimer. Donc elle rend vraiment compte de la volonté de la personne et son témoignage va prévaloir sur tous les autres témoignages. C'est-à-dire que la personne de confiance va être consultée en priorité par le médecin ou l'équipe médicale pour savoir ce qu'aurait souhaité la personne malade atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est pour cette raison que la personne de confiance doit accepter le rôle qui lui est confié par la personne malade. Voilà, la personne malade choisit librement parmi son entourage, sa personne de confiance. Ça peut être un proche, ça peut être une personne de la famille, mais pas nécessairement. Ça peut être également le médecin traitant avec qui elle entretient une relation suivie. Donc la personne de confiance doit accepter ce rôle pour bien prouver qu'elle a bien compris qu'elle allait représenter vraiment la personne malade quand celle-ci ne serait plus en état d'exprimer sa propre volonté. Une chose très importante à savoir, justement dans le cadre d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est que cette personne peut être sous tutelle ou curatelle, enfin sous une mesure de protection juridique. Alors, il faut savoir qu'une personne sous curatelle peut très bien désigner une personne de confiance. En revanche, une personne sous tutelle peut également désigner une personne de confiance, mais avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Donc, l'intérêt de désigner une personne de confiance en amont, c'est de le faire quand on a encore la possibilité, quand on a encore toutes ses facultés cognitives. Voilà, et cette personne va donc vous représenter pour le jour où vous ne serez plus en état vous-même d'exprimer vos volontés.
Alors, comment désigne-t-on justement une personne de confiance ?
Alors, la personne de confiance se désigne très facilement et très librement. Vous écrivez vos volontés sur un document ou sur un formulaire que vous trouvez facilement, par exemple sur le site de la Haute Autorité de Santé. Vous désignez une personne de confiance, vous signez ce document et la personne de confiance doit également le signer, c'est-à-dire qu'elle doit accepter la mission qui lui est confiée. Et ensuite, le plus important, c'est que ce document puisse être retrouvé. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez bien sûr garder une copie sur vous, mais le mieux, c'est peut-être aussi de le donner, ce document, à la personne de confiance elle-même, ainsi qu'à votre médecin. Et puis, si un jour vous devez être hospitalisé ou si vous devez être placé, par exemple, dans un EHPAD, vous pouvez également le confier à l'hôpital ou à l'EHPAD pour que ce document soit dans votre dossier médical et puisse être retrouvé très facilement. Maintenant, il existe en plus le dossier médical partagé qui est mis au point par la CPAM et votre document concernant la désignation de votre personne de confiance peut être également dans votre dossier médical partagé pour être retrouvé plus facilement.
Alors, il y a aussi un autre droit pour les patients, ce sont les directives anticipées. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors oui, en effet, les directives anticipées existaient déjà, mais la loi de février 2016, qui a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, leur a donné encore plus de force aux directives anticipées. Alors concrètement, les directives anticipées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait vos volontés que vous aurez exprimé par écrit sur les décisions médicales à prendre ou les traitements ou les actes médicaux que vous souhaitez recevoir ou non si un jour vous n'êtes plus en état de communiquer. Alors, ça concerne bien évidemment les maladies, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, puisque on sait aussi à certains stades de la maladie, vous ne pourrez plus communiquer donc vos volontés. Donc, vous avez par écrit mis ces volontés concernant votre fin de vie. Concrètement, ces directives anticipées, qu'est-ce qu'elles contiennent ? Ça peut être vos souhaits de limiter ou d'arrêter des traitements en cours, d'être transféré en réanimation ou non, de subir une intervention chirurgicale ou non, et d'être soulagé des souffrances en fin de vie. Alors, très souvent, les souhaits exprimés dans les directives anticipées sont de limiter ou d'arrêter les traitements. Mais attention, vous pouvez totalement exprimer l'inverse, c'est-à-dire dire concrètement que vous voulez que tout soit mis en œuvre pour prolonger votre vie et essayer de sauver votre vie. Les directives anticipées peuvent aussi contenir d'autres souhaits qui ne sont pas médicaux. Par exemple, vous pouvez exprimer votre souhait de ne pas être hospitalisé et de rester chez vous jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez exprimer le souhait de rencontrer un ministre du culte, par exemple. Vous pouvez exprimer le souhait que telle personne soit à votre chevet ou n'y soit pas. Voilà, donc les directives anticipées vont plus loin que les simples directives médicales. En revanche, attention, elles ne constituent pas un testament, elles ne concernent pas vos intérêts patrimoniaux. Voilà, là, ça ne sera pas pris en compte à ce niveau-là. Et alors, l'intérêt des directives anticipées, c'est justement pour le jour où vous ne pourrez plus vous exprimer, que quelqu'un connaisse vos souhaits en ce qui concerne votre fin de vie. Vous pouvez très bien les confier à votre personne de confiance, justement, qui sera là pour exprimer à votre place vos souhaits concernant votre fin de vie.
Alors, comment on doit les formuler, ces directives anticipées ?
Alors, les directives anticipées doivent être écrites, datées et signées. De la même manière que pour la désignation de la personne de confiance, si la personne est sous tutelle, elle doit demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille dans ces cas-là. L'important, c'est que ce document puisse être retrouvé. Donc, ce document, il peut être justement confié à votre personne de confiance, à un proche, à votre famille, à votre médecin également, et il peut également être inscrit dans votre dossier médical partagé, donc ouvert auprès de la CPAM. L'important, c'est qu'elle soit retrouvée, vos directives anticipées. Donc, de les faire connaître auprès de vous, auprès des personnes qui seront proches de vous au moment de votre fin de vie.
Merci beaucoup, Nadia Alix, pour ces précisions. C'est la fin de ce 5 minutes pour comprendre. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
5 minutes pour comprendre.